Voici une question à laquelle tous ont besoin de la réponse de Dieu. En qui devons-nous placer notre confiance pour que notre pays puisse vivre dans la paix? Les Saintes Écritures vont nous donner la solution à ce dilemme aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Notre existence serait tellement moins compliquée si on pouvait appliquer les solutions de la Bible à tous nos conflits, à toutes nos guerres. Dieu va nous enseigner de belles choses aujourd'hui, suite aux questions que voici. Pouvons-nous faire des compromis avec le mal? Est-ce que le bien et le mal peuvent coexister? Les enfants de Dieu sont-ils aussi des soldats de Dieu? Quel genre de péché est-ce que David a commis quand il a fait le dénombrement du peuple d'Israël? En qui devons-nous mettre notre confiance pour que notre pays puisse vivre en paix? En qui devons-nous avoir confiance pour régler nos problèmes quotidiens? Comment Dieu manifeste-t-il sa compassion? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner ce que la Bible dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, tant de conflits devant nous. Et on sait qu'il y a juste toi qui peux les régler. Travaille dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Enlève les conflits de nos vies par ta grâce, par ton amour, par l'enseignement que tu vas nous donner. Donne-nous des solutions aujourd'hui, mon Dieu. On compte sur toi. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que c'est le cœur pécheur de l'homme qui est responsable de toutes nos guerres. Il y a toujours eu des guerres. Il y en aura tant que le Seigneur Jésus ne reviendra pas. Lui seul pourra y établir la paix sur cette terre. David ne voulait pas faire la guerre à Amon, mais son roi en a provoqué une. Lorsque David est devenu plus puissant, nous voyons que ses ennemis se manifestèrent. Nous avons souligné qu'il en est de même pour ceux qui servent Dieu. Si nous prenons position pour la vérité, nous avons des ennemis. Nous avons vu que Dieu n'est pas un Dieu sanglant, parce que son peuple devait combattre des nations ennemies. Il accordait une victoire complète à son peuple afin que le conflit ne dure pas longtemps. Aujourd'hui, nous entreprenons l'étude du chapitre 20 qui complète la section au sujet des guerres de David. Les Philistins et les Ammonites furent continuellement des ennemis de David. Il n'y avait aucun compromis entre Israël et ses deux ennemis. Chers amis, débutons la lecture. 1 Chronique, chapitre 20, verset 1er. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, à la tête d'une forte armée, alla ravager le pays des fils d'Ammon et assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabba et la détruisit. Il semble qu'Israël ait été l'agresseur dans ce cas-ci. Quoi que ce soit, Joab, qui prit l'initiative du combat, il faut se rappeler que David avait cherché à poursuivre l'amitié entre le père du roi d'Ammon et lui. Cependant, le jeune prince devenu roi insulta les ambassadeurs de David et il entreprit de faire la guerre à Israël. Cet épisode est la suite de cette guerre déclenchée par les Ammonites. Chers amis, il ne peut y avoir de compromis avec l'ennemi et le mal. Ce concept que le bien et le mal peuvent coexister en paix est irréalisable. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Amos, chapitre 3, verset 3. Mes amis, si vous marchez avec le mal, c'est parce que vous avez fait un compromis. Et vous vous êtes entendu avec le mal. C'est un fait que le monde oublie ou ne perçoit plus. Ce serait drôle si les conséquences n'en étaient pas si tragiques. De nombreuses personnes sont horrifiées par les guerres sur les autres continents, mais elles tolèrent le crime dans les rues de leur quartier. Elles affirment qu'il faut comprendre et apprécier les criminels. C'est la grande hypocrisie de notre société contemporaine. Ce qui est criminel outre-mer l'est aussi en Amérique du Nord et, par le fait même, dans ton propre quartier. Nous devons nous opposer au mal. Nous devons nous opposer au non-respect de la loi. Nous devons condamner ces actes criminels. Le bien et le mal sont en conflit. Il ne peut y avoir d'entente entre les deux. Soit que nous approuvions le mal, ou soit que nous approuvions le bien. C'est pendant cette campagne que David est demeuré à Jérusalem et qu'il a commis son péché grave avec Bathsheba. Notez que Dieu n'en parle pas dans ce livre. Dieu a dit que lorsqu'il pardonne nos péchés, il les oublie. Nous en avons un exemple ici. David doit de nouveau affronter un ennemi persistant d'Israël, soit les Philistins. Versets 4 à 6. Après cela, il y eut une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors, Sibekaï, le Huchatite, tua Sipaï, l'un des enfants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille avec les Philistins, et Elshanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, l'Acmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tissant. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Lors de ce conflit avec les Philistins, 3 hommes qui étaient des géants furent tués par David et ses hommes. David, lorsqu'il était jeune, obtint une notoriété pour avoir tué Goliath. Pendant la vie de David, les Philistins furent toujours les ennemis d'Israël. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes aussi un soldat de Dieu, mes amis. Un croyant a aussi un ennemi implacable qui ne l'a jamais prise. Nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes aussi un soldat de Dieu. C'est pourquoi la parole nous exhorte à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Nous ne devons pas partir en guerre contre quiconque, mais nous devons tenir ferme. Si vous tenez ferme pour les choses de Dieu, vous êtes en guerre. Oui, chers amis, vous êtes impliqués dans un conflit, que vous le désiriez ou non. Les guerres peuvent cesser en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique, mais il y en aura toujours tant qu'il y aura du mal dans le monde. Paul a dit aux croyants d'Éphèse, dans sa lettre aux Éphésiens, nous lisons chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est la leçon que le chapitre 20 nous enseigne. Le chapitre 21 traite du plus grand péché qu'a commis David, et ce n'est pas celui commis avec Bathsheba, l'adultère, si grave soit-il. C'est un type de péché au sujet duquel les gens affirment « Je ne vois pas ce qu'il y a de si grave à faire cela. » Je compte parmi les nombreuses personnes qui croient que le péché commis avec Bathsheba fut très grave. C'est un péché atroce, adultère, mensonge et meurtre. Cependant, dans les livres de Chroniques, c'est le point de vue de Dieu qui est présenté. Et le dénombrement d'Israël est un péché qui avait une portée spirituelle plus grande. David ne perdit pas son salut, mais son péché eut des conséquences sur sa relation intime avec Dieu et sur la nation d'Israël. Débutons notre lecture. 1 Chroniques chapitre 21, verset 1er. Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Nous apprenons qui est le véritable coupable derrière ce péché. Il est d'origine satanique. nous comprenons mieux pourquoi Dieu l'a considérée très grave. Le péché avec Bathsheba était un péché personnel, une convoitise de la chair. Dans le psaume 51, David dit au verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Il parlait de son péché commis avec Bathsheba, mais ici, c'est Satan qui se lève contre Israël et qui pousse David à recenser Israël. Verset 2. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. » Rappelez-vous que Moïse avait fait deux recensements d'Israël, un au début de la marche dans le désert et l'autre à la fin de celle-ci. Il n'y eut rien de mal à faire cela. En tout cas, Dieu n'a pas fait de reproche à Moïse à ce sujet. Par contre, le dénombrement entrepris par David fut un péché grave. Certains affirment que David a fait cela par orgueil. Nous verrons. Poursuivons la lecture du texte. Verset 3. Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? » Voilà un homme qui n'aurait pas aimé les ordinateurs. David voulait des statistiques, et il peut y avoir du péché derrière les statistiques. Joab s'oppose au projet de David, car il perçoit que le roi est motivé par l'orgueil. Je pense qu'il y avait un élément d'orgueil dans l'affaire, mais si nous creusons davantage, nous découvrirons autre chose. L'orgueil n'est pas une explication complète. Dieu a donné à David une occasion de réfléchir avant de commettre son péché. Le dénombrement fut un péché d'incrédulité. Au lieu de faire confiance en Dieu seul, il voulut connaître le nombre de soldats exacts pour connaître la puissance qu'il avait entre ses mains. Jérémie, le prophète, nous parle de cette chose. Chapitre 9, versets 23 et 24. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse. » Que le fort ne se glorifie pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Oui, chers amis. Le dénombrement déplut à Dieu, car David ne se glorifiait pas de connaître l'Éternel. Il cherchait sa satisfaction dans sa puissance militaire. C'est l'incrédulité qui l'a motivé à recenser le peuple. David s'appuyait sur les nombres et non plus sur Dieu. Versets 4 à 6. Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Israël avait 1 100 000 hommes et Juda en avait environ 500 000. Lorsque Moïse fit le dénombrement du peuple, il y avait 603 000 hommes. David en avait 1 000 000 de plus que Moïse. Chers amis, c'est en Dieu qu'il faut mettre notre confiance. C'est tout un contraste avec le jeune berger qui vint au camp et qui aperçut le géant Goliath insulter Israël. À cette époque, David n'avait pas pensé de faire un dénombrement et il n'a pas compté les soldats de l'armée. Il a simplement dit, « Permettez que je fasse mon affaire de ce géant. » Pourquoi eut-il le courage de faire cela? Bien, il faisait confiance à Dieu. Il s'est avancé contre le géant avec une fronde et 5 petites pierres. Mes amis, lorsque vous avez 1 million d'hommes en armes, vous ne sentez pas le besoin de vous appuyer sur Dieu. Quand vous n'avez qu'une fronde et 5 petites pierres, vous le faites. Nous pratiquons toujours le même péché aujourd'hui. Combien de pays se vantent de leur puissance? Rome, Babylone, la Grèce et l'Égypte ont dû se vanter de leur puissance à leur époque. Mais que reste-t-il de ces empires? Ces empires se sont écroulés parce qu'ils se sont appuyés sur leur armée. Comprenons-nous bien. Tout pays a besoin d'une armée pour se défendre dans notre monde corrompu et méchant. Nous ne devons pas agir en insensé et en fanatique et affirmer que nous n'avons pas besoin d'une armée ou de protection. Mais c'est en Dieu qu'il faut mettre notre confiance. Priez-vous pour la sécurité de notre pays? Joab protesta contre l'ordre de David, son roi. Tous les hommes d'Israël n'étaient-ils pas à son service? Il n'était pas nécessaire de le compter. Dieu lui a accordé ses hommes, et dans les mains de Dieu, ils suffiront à la tâche. Mais David insista pour avoir son recensement. Aujourd'hui, avec nos missiles et notre technologie, nous ne pensons pas avoir besoin de Dieu. Mes amis, nous avons besoin de Dieu. Nous nous appuyons sur les mauvaises choses aujourd'hui. De nombreuses personnes ne comprennent pas qu'elles sont incrédules aujourd'hui. Nous pointons du doigt une personne qui entre dans une église en état d'ébriété. Mais si vous venez à l'église avec un cœur rempli d'incrédulité, personne ne le remarque. Si votre incrédulité était connue, elle ne serait pas considérée sérieuse. Mes amis, cet épisode de l'histoire d'Israël nous montre que Dieu juge sévèrement l'incrédulité. Satan est derrière l'incrédulité. Il sème l'incrédulité dans nos cœurs et dans nos esprits, afin que nous ne fassions pas confiance en Dieu. Satan nous encourage à nous confier dans l'homme, à nous appuyer sur une armée, sur nos richesses, bref, sur tout sauf Dieu. C'est cela le péché derrière les statistiques. De nombreuses personnes aujourd'hui s'appuient sur les chiffres et non sur le Créateur. Ils font confiance à un ordinateur et non à Jésus-Christ. Ils font confiance à leurs projections mathématiques et non au Seigneur. David a compris la leçon. Écoutez ce qu'il dit. « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Le psaume 118, versets 8 et 9. « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. » Le psaume 71, verset 1. Faisons-nous vraiment confiance à Dieu? Croyons-nous vraiment Dieu? Sondons notre cœur avec quelques questions appropriées. Faisons-nous vraiment confiance à Dieu? Croyons-nous vraiment Dieu? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. Le Seigneur Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit viendrait, il convaincrait le monde de péché. De quel péché parlait-il? En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jean chapitre 16, verset 9. Paul a dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Romains chapitre 14, verset 23. Ce fut le péché de David, et ce fut un véritable péché. David se rendit vite compte qu'il a commis une action terrible. Versets 7 et 8. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Maintenant, Dieu va demander à David de choisir entre trois punitions. Versets 9 à 12. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose trois fléaux. Choisis-en un, et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Accepte, ou trois années de famine, ou trois mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou trois jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » Maintenant, prêtez attention à la réponse extraordinaire de David. J'espère que vous êtes maintenant d'accord avec moi et que vous considérez que David fut un grand homme. Il était humain, comme vous et moi. Il avait ses défauts et il commit des péchés. Mais il n'a jamais perdu son salut ni son désir d'être en communion avec Dieu. Verset 13. David répondit à Gad. « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Faisons-nous confiance à Dieu pour régler nos problèmes quotidiens? David connaissait Dieu. Voici un homme qui fit faire un dénombrement, car il s'appuyait sur l'homme. Maintenant, il se rend compte de sa faute. David a dû se rappeler la foi de sa jeunesse lorsqu'il a affronté Goliath. David était un humain comme nous. Nous faisons confiance à Dieu pour notre salut, mais pas pour régler, malheureusement, certains problèmes de notre vie. David a considéré les nations ennemies et leur puissance, et il s'est demandé si son armée était suffisante pour les combattre. Il avait détourné les regards de Dieu et il a donc ordonné que le peuple soit recensé. Combien de fois nous sommes-nous appuyés sur autre chose que Dieu? Les compassions de Dieu sont immenses. Mais David connaît Dieu et il préfère se retrouver entre ses mains plutôt que celles des hommes. Il dit à Gad, « Je ne veux pas me retrouver entre les mains des hommes, mais entre celles de Dieu. » Pourquoi? David avait compris que Dieu est miséricordieux. Je crains que beaucoup d'entre nous n'aient pas perçu cela. Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Le psaume 103, versets 10 et 11. Dieu manifeste ses compassions en proposant son salut à un monde perdu. Ce salut a pour fondement le sacrifice de Jésus-Christ. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean chapitre 2, verset 2. Jésus-Christ est mort à notre place pour nos péchés. Les compassions de Dieu sont trop abondantes pour s'épuiser. Pour être sauvés, nous nous présentons devant Dieu, nous plaidons coupables et nous demandons sa miséricorde. Pour être pardonné, vous n'avez qu'à le demander. Nous voyons aussi la miséricorde de Dieu dans l'exercice de sa providence. Lorsque nous jetons un regard en arrière sur notre vie, nous voyons combien Dieu a été bon avec nous, et non seulement avec nous, mais avec les pécheurs perdus. Pourquoi n'a-t-il pas jugé ce monde cruel la nuit dernière? Parce qu'il est miséricordieux, il use de patience afin que tu parviennes toi aussi à la repentance et que tu implores son pardon, sa miséricorde. Chers amis, préparez-vous pour la prochaine émission. En lisant 1 Chronique, chapitre 21, verset 14, à chapitre 22, verset 9.
Merci beaucoup, Régent. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux le remercier parce qu'il me connaît. Il connaît mes faiblesses. Il sait que je pourrais facilement être porté à m'appuyer sur mes propres forces pour régler mes conflits, pour avoir du succès dans mes entreprises, pour surmonter le mal. On a vu aujourd'hui que c'est en Dieu qu'il faut placer toute sa confiance, non seulement pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, mais aussi pour régler tous nos problèmes quotidiens. Mais Dieu est plein de compassion. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et il déploie sa bonté envers tous ceux qu'il craignent. Pour ma part, je peux affirmer que depuis que je suis une enfant de Dieu, depuis le jour où j'ai placé ma confiance en Jésus seul pour le pardon de mes péchés, pour le don gratuit de la vie éternelle, Dieu me place très souvent dans un état de faiblesse, afin que je puisse avoir constamment les regards fixés sur lui, afin que je puisse crier, demander son secours, autant dans ma vie personnelle que dans les ministères qu'il me confie. Gloire à Dieu pour sa miséricorde, pour sa grande bonté envers moi. En même temps, ceci m'enseigne que j'ai encore besoin de grandir dans la foi, pour que je mette ma confiance totale en lui instantanément, en toute chose, sans qu'il ait besoin de me placer toujours dans un état de faiblesse, pour que je réalise que je dois le supplier de m'aider, de me secourir, de me donner les victoires qu'il désire m'accorder de toute façon. Mais ce qui me console, c'est que je ne suis pas seule à avoir besoin de sa grâce. Je mentionne souvent l'apôtre Paul, et dernièrement, alors que je me préparais à partir pour une campagne d'évangélisation, je me suis foulé la cheville droite. Le lendemain, je partais en auto et je devais conduire pendant environ 4 heures pour me rendre à l'endroit où je devais aller pendant 4 jours, chanter pendant des heures, marcher, donner mon témoignage 4 fois en public, participer à des concerts gospel, sans compter les courtes nuits de sommeil que nous avons pendant ces campagnes. Je ne crois pas avoir été la seule à être éprouvée ainsi parmi tous ceux qui ont participé à la même campagne. Je crois que tous mes frères, mes sœurs, chacun à sa façon, ont été éprouvés, placés eux aussi dans un état de faiblesse. Mais pour revenir à l'apôtre Paul, lors de cette campagne, le Seigneur m'a mis à cœur de relire le récit de sa 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 12, et ça m'a réconforté. Permettez que je vous lise une partie de ce chapitre, au verset 9 et 10, alors que Paul demandait à Dieu d'éloigner de lui une écharde qu'il avait dans la chair. Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul a dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. » Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Eh bien, mes amis, je suis revenu de ce camp avec la cheville aussi enflée qu'au début, mais avec un cœur joyeux d'avoir vu Dieu à l'œuvre à travers moi et à travers tous ceux qui ont participé à cette campagne d'évangélisation nommée « Camp de l'espoir ». Mon frère, ma sœur, es-tu dans un état de faiblesse en ce moment? Mets ta confiance en Dieu et il va agir.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui seront aidés.
Tu as besoin d'amour. Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143. Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine et à lundi.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.